présence le grand entretien.
Oui, l'entretien de ce matin avec l'historien Rémi Pêche. Merci d'être au rendez-vous de si bon matin, Rémi. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine, grand spécialiste de Jean Jaurès, entre autres, et que vous avez été président de l'université Toulouse-Le Mirail. Vous venez de faire paraître aux éditions Midi-Pyrénéennes 1912, premier d'une longue liste, le Brennus au stade, dans la collection cette année-là à Toulouse. C'est donc l'histoire des boucliers de Brennus gagnés par le stade toulousain depuis le tout premier en 1912. En écrivant ce livre, j'ai l'impression que vous avez réuni deux de vos passions, l'histoire et le rugby, mais je crois que c'est aussi un hommage au beau jeu. Est-ce que le stade toulousain incarne le beau jeu depuis toujours? Est-ce qu'il l'incarnait déjà en 1912?
Oui, je crois que d'après les articles qu'on peut lire sur cette finale légendaire, il y avait du très beau jeu. Et on décrit des phases qui ne seraient pas démenties par le match que j'ai vu avant-hier, France-Galles. Et quand on voit opérer Dupont aujourd'hui, on peut très bien penser à Meissonnier et Struxiano, qui étaient les demi, hein, Struxiano à la mêlée et Meissonnier à l'ouverture, de cette finale magnifique des Ponts Jumeaux en 1912. Et puis aussi le fait que les avants jouaient, faisaient courir la balle, au lieu de se contenter de bétonner et de rentrer dans le lard des adversaires, on le trouve déjà en 1912. Donc on peut dire que déjà, le beau rugby, le rugby de mouvement, le rugby d'évitement, aussi, avec des crochets, avec des percées, avait lieu en 1912.
Alors le point de départ du livre, c'est donc ce premier bouclier de Brennus remporté par le Stade Toulousain le 31 mars 1912 contre le Racing Club de France. Je rappelle que le championnat de France de rugby a été créé en 1892. Ça peut paraître étonnant aujourd'hui, mais il aura fallu attendre tout de même 20 ans pour que le Stade Toulousain soit champion de France. Pourquoi une si longue attente?
Ben, si vous voulez, tous les accomplissements demandent du temps par définition. Et on a commencé à jouer au rugby à Toulouse en 1892, pas avant. Ouais. Et avec un petit foyer qui s'est allumé au lycée, qui s'appelle aujourd'hui lycée Pierre de Fermat, on disait à l'époque le lycée de Toulouse, où un répétiteur, un surveillant et enseignant dans ce lycée était passé par Le Havre et par Paris, qui étaient des grands foyers de rugby en France depuis déjà une vingtaine d'années. Donc c'est lui qui a procuré les contacts pour obtenir les premiers ballons qui ont été expédiés par le Racing Club de France. Hein, c'est donc un des premiers clubs français. Et les règlements ont été communiqués au Havre et à Paris par d'anciens étudiants d'Oxford et de Cambridge, ce qui se lit encore sur les maillots de ces clubs aujourd'hui même.
Oui, le fait que le rugby traverse la Manche et arrive d'abord au Havre en 1872, hein, pas du tout directement dans le sud-ouest. Et puis après, les grands clubs parisiens, effectivement, le Racing Club de France, le Stade français, et on retrouve les couleurs d'Oxford et Cambridge, le bleu ciel et le bleu marine sur les maillots du HAC, sur les maillots du Racing. Donc Toulouse devient une ville de rugby en 1892, mais le Stade toulousain, lui, est créé plus tard, en 1907. Il y a un club ancêtre, on pourrait dire, le SOET.
Oui, je crois que il y a deux clubs importants qui ont fonctionné et qui ont même illustré Toulouse, puisqu'ils sont montés jusqu'aux demi-finales et au final. C'est le SOET, Stade Olympien, s'il vous plaît, pas Olympique, Olympien, des étudiants de Toulouse, qui étaient finalement les anciens lycéens passés à la fac, dans les facs de droit et de lettres. Et puis, surtout, un club très original, c'est le club de l'école vétérinaire, le SOEFST. Je le trouve très important parce que c'est lui qui a assuré le contact entre la bourgeoisie et le peuple toulousain, étant donné que les vétérinaires étaient certes des intellectuels, des scientifiques, mais c'était des gens qui avaient les mains non pas dans le caoui, mais dans la viande et dans le sang des bestiaux qu'ils abattaient, et avec les bouchers. Et aussi les habitants de ce quartier qui à ce moment-là était extrêmement populaire, quartier où vous officiez actuellement, cher Eric, et qui est le quartier Saint-Cyprien.
Oui. Alors, la finale de 1912, du 31 mars, où se joue-t-elle? Pas encore à Ernest Vallon, mais pas très loin finalement.
Oui, elle se joue au premier stade qui a pris le nom d'Ernest Vallon, un peu plus tard d'ailleurs, après la guerre de 14, après la mort d'Ernest Vallon. C'était le stade des Ponts-Jumeaux, et le stade des Ponts-Jumeaux qui était à l'emplacement précis de l'échangeur qui distribue les voies entre le quartier des Sept-Deniers, l'autoroute qui démarre à Bordeaux, etc. Ça a été un choix cornélien pour les responsables des années 60 et 70 de sacrifier ce stade. Heureusement, il y avait des terrains libres, il y en a encore d'ailleurs, dans le quartier des Sept-Deniers, qui a permis de faire un déplacement de quelques 500 ou 600 mètres. C'est pas très grave, et c'est toujours Toulouse et c'est toujours les Ponts-Jumeaux, on peut dire, au sens large.
Alors, le Stade toulousain gagne cette finale de 1912, 8 points à 6. Je rappelle qu'à l'époque, l'essai valait 3 points. Hein. Donc, il y avait eu deux essais.
Oui, 3 points, 3 et 2 la transformation.
Et 2 la transformation. Donc, deux essais, une transformation. 19 000 spectateurs, ce qui était sans doute énorme à l'époque.
Ah oui, mais les spectateurs, le stade était plein. Il y a eu 15 000 spectateurs, ça. Et c'est un chiffre qui est vrai, puisqu'il s'agissait des billets qui étaient délivrés. Enfin, on comptabilisait déjà. Donc, ce qui était énorme, ce qui montrait quand même, sur une ville qui n'avait à ce moment-là que 150 000 habitants, il y avait un Toulousain sur 10. Mais il y avait aussi des gens qui étaient venus de loin, et beaucoup de Bordelais, puisque Bordeaux était allé en demi-finale, mais avait perdu la demi-finale. Donc, et les Bordelais étaient venus soutenir un Toulousain, ce qui est quand même remarquable, je trouve, compte tenu de
la rivalité,
de l'animosité, mais de la rivalité entre les deux villes qui n'est pas terminée. et puis, il y avait des gens qui étaient venus de partout. Un train spécial d'Avignon, par exemple, c'est très curieux. Hein. Et donc, l'engouement était quand même très fort.
Alors, il y a un mythe qui va naître après cette victoire de 1912, c'est le mythe de la Vierge Rouge. Qu'est-ce que c'était, la Vierge Rouge? C'est ainsi qu'on appelait le Stade toulousain à l'époque?
Oui, bah ça, c'est les journalistes qui avaient un peu créé ce mythe, mais qui a pris. La virginité, ça consistait à ne pas avoir perdu un seul match pendant toute une saison. Et donc, il y a eu 3 Vierges Rouges, une qui est d'ailleurs complètement escamotée en 1920 ou 21, je ne me rappelle pas, sur le coup, et la deuxième en 1947. Mais il y avait, c'était pour un peu sacraliser, mythifier cette équipe en lui donnant un aspect quasi religieux. Il y avait la Vierge de Lourdes qui est pas très loin, excusez-moi, et puis la Vierge Rouge qui symbolise le stade, alors avec tout un tas de représentations, de poèmes, de chants, représentant cette équipe mythique, on peut dire, de la Vierge Rouge, dont beaucoup de Toulousains connaissaient la composition par cœur. Moi, j'avais un vieux grand-oncle à Toulouse, et il était capable de réciter comme chapelet la composition de l'équipe de 1912. C'était assez fascinant.
Donc, un vrai mythe. Alors, il va falloir attendre ensuite 10 ans pour le deuxième titre, en 1922, et les années 20 vont correspondre à un premier âge d'or du Stade toulousain. Il va y avoir 5 titres dans les années 20.
Oui, alors, dans les années 20, on peut dire que là, il y avait une véritable hégémonie du Stade. Hein. Le Stade régnait sur le rugby français. D'ailleurs, le président de la fédération, Octave Léry, vétérinaire et responsable des abattoirs de Toulouse, qui à ce moment-là étaient vraiment des abattoirs et non pas un musée. Donc, c'était la monarchie toulousaine, on peut dire. L'équipe de France était constituée en grande partie de Toulousains. Bon, ça recommence aujourd'hui et ça pose des problèmes, parce que pendant que nos joueurs font gagner l'équipe de France, les remplaçants ont de la peine, et ils ont connu un échec face à Lyon, qui est une très bonne équipe, mais enfin, c'est vexant d'être battu à domicile.
Et oui, évidemment. Alors ensuite, 20 ans plus tard, dernier titre des années 20, c'est 1927. 20 ans après, il y aura un nouveau titre après-guerre en 47. Et puis il va y avoir une longue disette jusqu'au milieu des années 80. Et un huitième titre en 1985 qui sera suivi de 12 autres jusqu'en 2019, qui vont être les artisans de ce renouveau à partir des années 80. On pense, il y a un nom qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le nom de Jean Fabre, le président de l'époque des années 80.
Oui, bon, Jean Fabre, je crois qu'il est emblématique, parce que c'est un gars du Midi, c'est un Aveyronnais, c'est un grand intellectuel, un mathématicien qui a fini inspecteur général de mathématiques, et c'est, je dirais, un technicien de rugby. Sa qualité était d'ailleurs reconnue, puisqu'il a été quand même capitaine de l'équipe de France en même temps que capitaine du stade. Et puis, quand il a passé la main aux plus jeunes, il est devenu un dirigeant, un grand dirigeant, c'est-à-dire c'est lui qui a organisé la formation des joueurs, c'est lui qui a organisé, qui a créé ce centre de formation qui était assez modèle, je dirais, en France, puisque il permet de, à la fois de former des joueurs en rugby et puis de suivre leur carrière et de préparer leur réinsertion dans la société, ce qui parfois est négligé et qui donne des résultats mitigés. On connaît beaucoup de sportifs qui ont connu la gloire et puis qui ont connu la déchéance. À Toulouse, ça n'existe pas parce que il y a le centre de formation. Et je crois que il a été également fondamental dans le maintien de l'esprit rugby et de l'esprit d'offensive, de l'esprit de rugby ouvert dont nous parlions à l'instant.
Oui, avec des entraîneurs comme Villepreux, comme Scrella, bien sûr, et puis des joueurs, on se rappelle, les années 80, Charvet, Bonneval, Gabernet, Sigagna, et puis un certain Guy Noves à l'aile, qui avait joué d'ailleurs un de ses derniers matchs en club pour cette fameuse finale de 85 gagnée après prolongation contre Toulon. Après, bon, il va y avoir beaucoup de titres, il va y avoir le titre de champion d'Europe à plusieurs reprises.
Quels sont fois, on met une étoile chaque fois. Ouais. Et cette année, c'est raté, mais ça reviendra.
Oh oui,
on était en finale, c'est déjà pas mal.
Oui, oui, puis je crois qu'on a, avec la génération des Dupont, vous citiez tout à l'heure, Ntama, Kramos, Cross, il y a peut-être un nouvel âge d'or qui s'annonce, en tout cas, moi je le pense.
Oui, et ce qui fait plaisir, c'est que ce sont des gars de chez nous. Il faut pas faire, évidemment, de discrimination. Et toutes les équipes, maintenant, c'est la mondialisation. Hein. On est content d'avoir Colby, qui est un Sud-Africain magnifique, à l'aile et qui nous fait rêver.
Mais qui fait du jeu à la Toulousaine, en plus. Oui.
Ça fait plaisir, oui, ça fait plaisir de voir que ce sont nos gars. Et puis, vous avez parlé de Tamac et de Dupont, qui, évidemment, sont éblouissants. Mais les combattants obscurs de la première ligne, Marchand et Bide, qui sont vraiment des produits toulousains, ce sont des Toulousains de Toulouse, et sont très bons, et nous les voyons sous le maillot bleu et sous le maillot rouge et noir, donc pour notre plaisir et notre fierté aussi, sans en faire une gloriole, je crois qu'aujourd'hui on est un peu malmené à Toulouse avec la crise du Covid et les difficultés de l'aéronautique, de l'Airbus, etc. Bon, le stade je dirais, bien lancé pour faire une très belle saison et ça nous console un petit peu.
Oui, merci beaucoup Rémi Pech d'avoir partagé avec nous votre passion pour le ballon ovale et toutes ces anecdotes sur l'histoire du Stade Toulousain, une histoire ancienne qui est loin d'être terminée et qui nous promet encore de grands moments dans les années qui viennent. Je rappelle que votre livre 1912, premier d'une longue liste, Le Brennus au stade, est paru aux éditions Midi-Pyrénéennes.